J'essaie d'imaginer les commentaires que vous allez avoir après le labacilicide d'aujourd'hui.
Ouais, merci beaucoup à toute l'équipe pour cette émission sur la Colombie. C'est un pays que je connais un peu. Et je me suis vraiment, vraiment fendu la courge en vous écoutant tous. Voilà, bravo à tous et continuez comme ça, ça fait vraiment plaisir. Salut, c'était Romain de Paris.
Salut à toute l'équipe, super émission, super musique. J'espère que Antoine Tchao n'aura pas succombé à la tentation. Et bande de vénards, vous êtes super. Hein. Allez, ciao.
Oui, bonjour. Alors, je voulais vous appeler vraiment pour vous féliciter pour cette émission de vendredi qui était d'un vide, mais abyssal. En tout cas, je suis bien content de savoir qu'une partie de mes impôts permettent de financer des espèces d'anarchistes qui vont se balader à Bogota à mes frais. Donc ça, j'en suis ravi. Lorsqu'on passe son temps à critiquer les entreprises, les entrepreneurs, les gens qui produisent, en les qualifiant quasiment à chaque fois de profiteurs, on essaye de ne pas donner la même image à la radio en allant se balader et faire absolument n'importe quoi. Voilà, je suis donc Jérémy Torlet en Martinique. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation grâce à nos impôts. À bientôt, au revoir.
Oui, salut tout le monde, c'est Gaël de Perpignan. J'appelle simplement pour l'autre Herluberlu à qui t'appelle le petit Staline en nous disant simplement que tu donnes jamais le contre-pied de tes émissions. Mais la seule différence, et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que le contre-pied, c'est ce qu'on entend tous les jours, c'est ce qu'on voit dans les journaux télévisés, à la radio, le discours politique, le discours médiatique non approfondi, c'est justement le petit espace justement qui prend le contre-pied de tout le reste. Ciao, ciao.
Bonjour la France multiculturelle. Eh bien, encore une fois, je suis scandalisé par la discrimination religieuse à l'œuvre dans les médias français. Encore plus inadmissible sur une chaîne publique. Voilà en quel terme débuter le sujet des enfants séquestrés à Bagnols-sur-Mer, traité par le journal de 13h sur France 2 le 16 avril 2009.
Pendant des années, ils ont vécu un véritable calvaire. Leurs parents, un couple de musulmans, les privaient de nourriture et de soins.
Eh oui, un couple de musulmans. Est-il nécessaire de le préciser? A-t-on seulement une fois dans un journal télévisé français souligné la religion chrétienne, ou pire encore juive, dans un ou plusieurs personnes incriminées dans quelques affaires que ce soit? Eh bien, pas à ma connaissance. Il s'agit donc clairement d'un cas de discrimination religieuse à laquelle nous ne pouvons que réagir fermement. Je suis scandalisé, outré aujourd'hui, portons plainte contre France 2, contre son directeur, éventuellement, s'il le faudra, contre des autorités supérieures. C'était Canoff en Ardèche. Merci.
Salut Daniel, de la part de Marcel, souscripteur modeste et génial, animateur de Tacmeuse. J'invite tout le monde à la projection du film Chomsky et compagnie le jeudi 23 avril au Majestic de Verdun à 20h40 précise. Débat prévu après la projection qui fait partie des activités proposées dans le cadre de notre premier forum social local du samedi 25 avril de 10h à 22h au centre social d'Antoire à Verdun. Merci à tous, salut.
C'est un fait assez rare pour être souligné. À peine terminé le carnage sans nom perpétré par Israël contre la bande de Gaza, les dirigeants israéliens, Ehud Olmert, Ehud Barak et Tzipi Livni en tête, cherchent déjà le moyen de soustraire les hauts gradés de leur armée à d'éventuelles poursuites internationales pour crimes de guerre. Les images insoutenables de bombardements aveugles, notamment au phosphore, dont l'objectif est de détruire le maximum de populations civiles palestiniennes, d'hôpitaux, d'écoles, de bâtiments de l'ONU, l'Université de Gaza, sans parler des autres infrastructures civiles, comme des stations de pompage d'eau, centrales électriques, dépôts de denrées alimentaires, de médicaments, etc. On finit par réveiller les ONG, y compris en Israël. Elles réclament une commission d'enquête. Même le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, n'a plus qu'exiger que les responsables des bombardements contre les bâtiments de l'ONU, pourquoi d'ailleurs que cela, soient identifiés afin de rendre des comptes devant les instances judiciaires. instruits par les expériences du passé, on peut craindre que les criminels de guerre israéliens ne soient guère inquiétés. Comme le dit si bien l'iconoclaste journaliste québécois Normand Lester, l'État hébreu, seul État au monde créé par les Nations Unies, considère toutes les résolutions de cette organisation comme du papier toilette. Bonsoir.
Merci pour ces messages. Et à ce sujet, il est intéressant de suivre les travaux du tribunal Russell pour la Palestine, qui a commencé ses travaux en mars dernier, mars 2009. Il y a Stéphane Hessel, Ken Loach, Leila Chahid, Jean Ziegler, etc., qui sont dans ce tribunal. Et c'est très intéressant de reprendre aussi le système du tribunal Roussel qui s'était réuni autrefois au sujet du Vietnam. Je parle de ça parce qu'évidemment, c'est pas sans lien avec le sommet de Genève sur le racisme, la discrimination et l'intolérance. On se souvient comment en 2001, cette même conférence à Durban avait été marquée par des déclarations antisémites de la part de certaines ONG délirantes et évidemment insupportables, inadmissibles. Mais il ne faudrait pas que la lutte nécessaire, légitime, indispensable contre l'antisémitisme soit utilisée et détournée pour justifier la politique israélienne et notamment l'opération contre Gaza, l'opération plomb durci. Il ne faudrait pas que la mémoire de la Shoah soit utilisée et détournée au profit des faucons israéliens pour assurer leur impunité. Alors à part ça, eh bien, je suis à Boston, figurez-vous. Boston, non pas pour le marathon, mais pour retrouver Howard Zinn, l'historien. Howard Zinn, aujourd'hui 87 ans, vous le savez, il est l'auteur de l'histoire populaire des États-Unis. Un autre livre formidable que je vous conseille, c'est L'impossible neutralité, etc., etc. Et on va demander à Howard Zinn de nous parler de la crise, parce qu'il se souvient de la crise de 29, enfant qu'il était. Pourquoi rencontrer Howard Zinn? Au moins pour se dire que c'est pas tout le monde qui retourne sa veste. Ce à quoi on assiste avec cette fameuse crise, c'est que ceux qui, si longtemps, nous ont trompés, nous ont abusés, les abuseurs publics sont toujours là et retournent leur veste, disent le contraire de ce qu'ils disaient il y a quelques mois, mais avec une arrogance et une suffisance extraordinaire. C'est une imposture formidable. Alors, c'est pourquoi nous retrouvons aujourd'hui Serge Halimi, qui avait publié un livre en 2004, intitulé « Le bond en arrière », qui est un livre qui marche toujours très bien d'ailleurs, et c'était il y a 5 ans. Alors, on va voir si ce que disait Halimi il y a 5 ans a un sens pour aujourd'hui. Je sais d'avance que certains passages sur la crise et la suite de la crise de 29 n'est pas sans écho avec ce qui fera l'objet de nos discussions avec Howard Zinn. Vous voyez qu'on peut être très très sérieux et oublier les boutiques de Bogota. Voilà, c'est notre sujet du jour, le grand bond en arrière avec Serge Halimi, un entretien de 2004. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base qui suit, au 01 56 40 37 37.
Eh ben dites donc, ça dépote en ce moment dans les rangs des vieux croumires de droite. Alors, Yvon Bourges maintenant, comme on disait déjà, le canard enchaîné, il y a très 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 longtemps. Ah oui, ce bouillon de courge. Salut, c'était Anne du Morbihan, bonne journée.
Ici le repère de Marseille. Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Le prochain repère aura lieu le mardi 21 avril à 19h30 au café-restaurant Le Troquet, qui se situe 17 place rue Pierre Roux dans le 5e arrondissement de Marseille. Au cours de ce repère, nous parlerons du régime dans lequel nous allons nous retrouver au sortir du capitalisme. Il nous appartient d'imaginer la suite du capitalisme et non pas d'attendre que dans le désastre, il se transforme en despotisme. Alors, soyons nombreux, ce mardi 21 avril à 19h30, au Troquet, dans le 5e arrondissement de Marseille. Bonne journée.
Grande nouvelle sur France Inter ce matin. Chez Caterpillar, il n'y aura que 600 suppressions d'emplois au lieu de 733. Grande victoire syndicale. Et vous vous étonnez, vous les syndicats, qu'on n'adhère pas plus que ça? Eh ben, ciao.
Whether you're an experienced investor, que vous soyez un investisseur expérimenté ou simple débutant, Peter Lynch peut vous aider à choisir les bonnes actions.
Who knows?
Qui sait?
A 10-bagger may be right around the corner.
Il y a peut-être une bonne affaire qui vous attend quelque part.
Before you think about buying stocks,
avant de penser à jouer en bourse, il vous faut répondre à quelques questions simples.
Do you need to invest in stocks?
En avez-vous besoin?
What do you expect to get from them?
Qu'attendez-vous de cette opération?
How will you react to sudden price drops?
Comment réagiriez-vous si la bourse s'effondrait?
How much do you trust corporate America?
Avez-vous vraiment confiance dans le secteur privé américain?
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Serge Halimi, le grand bond en arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Finalement, Serge Halimi, tout est dans le titre. Hein. Le grand bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde. Voilà le sujet du livre et le titre du livre. Alors le grand bond en arrière, il faut peut-être expliquer que ça fait allusion au grand bond en avant.
Oui, enfin ça part un peu d'une notation humoristique qui reprend la formulation de Mao Tse-tung des politiques très très volontaristes du grand bond en avant à la fin des années 50, parce qu'il me semble que la caractéristique du grand bond en arrière libéral, c'est aussi l'application de politiques très volontaristes qui ont été pensées dès le départ et pas du tout l'application d'une espèce de loi de la nature qui voudrait qu'on ait les politiques qu'on a en ce moment parce qu'elles sont plus raisonnables, plus responsables et plus naturelles.
Ce qui prévaut quand même, l'idée qu'on a, c'est que tout ça, c'est naturel, c'est comme ça, c'est venu comme ça, on ne sait pas très bien d'où. Et là, vous faites tout un travail historique. C'est l'histoire d'une idéologie, hein. C'est un basculement idéologique sur une trentaine d'années.
Oui.
Vous situez le début du basculement au début des années 70, mais vous nous racontez que le projet était beaucoup plus ancien. On savait qu'il existait, mais il semblait absolument ridicule, anachronique. Je parle des années d'après-guerre, par exemple, où ce genre d'idée semblait tout à fait saugrenu.
Oui, l'application du programme libéral intervient à partir des années 70, mais sa conception intellectuelle, on peut en voir la trace dès les années 30. Et en tout cas, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un groupe de penseurs ultralibéraux autour de Friedrich Hayek, qui est un économiste, qui opère d'abord à Londres et puis ensuite à Chicago, qui se sent dans une situation d'assiégé, qui est un peu la situation dans laquelle les gens de gauche se sentent en ce moment. Ils se disent, voilà, le déroulement de l'histoire va dans le sens que nous ne souhaitons pas, et on aimerait l'interrompre et on ne sait pas comment faire. Et bien cette situation-là, c'est la situation d'Hayek au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il a le sentiment, et ses amis avec lui, que la marche des sociétés occidentales, et puis la constitution d'un bloc qu'on qualifie de socialiste, enlève les unes après les autres les libertés aux entrepreneurs et détruisent la société libérale à laquelle ils sont attachés. Et il décide de lancer une contre-offensive intellectuelle en partant d'une position de minoritaire, d'assiégé, et en se disant, après tout, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faudra qu'on revienne au premier plan et que nos idées s'imposent, même si, à l'heure actuelle, elles ont l'air d'être très minoritaires.
Et il se réfère à l'histoire de l'idée libérale et de la politique libérale, c'est-à-dire à Adam Smith et aux autres.
Absolument. Oui, Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, a une vision de la société, une vision de l'individu, qui est la vision à l'issue de laquelle chacun est calculateur et cherche à maximiser en permanence son intérêt. Et au moment où Adam Smith écrit ça, il est évident que sa description n'est pas du tout une description. C'est une projection historique, c'est ce qu'il souhaite voir advenir. Mais au moment où il s'exprime de cette manière-là, les gens ne fonctionnent pas uniquement comme des entités calculatrices. Il y a d'autres sentiments qui les animent que l'intérêt, le lucre, la solidarité, la famille, la piété, la tradition, enfin toutes ces choses-là. Et Adam Smith va arriver, sans le savoir, à projeter ce que sera la société dans laquelle on vit de plus en plus, qui est effectivement une société où on se transforme chaque jour davantage en consommateur qui cherche à maximiser son intérêt, qui se demande quelle compagnie de téléphone choisir pour avoir les meilleurs tarifs de portable, et puis demain, quelle compagnie d'électricité choisir pour avoir les meilleurs tarifs, qui consacre de plus en plus de temps à son activité de consommateur. Et qui se comporte de plus en plus en personne privée, en entité privée, qui a sa télévision, qui regarde sa chaîne de télévision quand il veut, isolé des autres, qui a son téléphone portable, etc. Donc en fait, il va y avoir une série d'évolutions historiques et d'évolutions économiques qui vont faire advenir ce que Adam Smith croit être une description au XVIIIe siècle, qui n'est pas une description, mais qui est une espèce de projection sur ce que sera l'avenir.
Mais les penseurs socialistes, marxistes et les mouvements sociaux au XIXe siècle luttent contre ça.
Absolument.
C'est une vieille histoire.
Ils luttent contre cela, et comme ils luttent contre cela, ils vont aboutir à ce que la société dans laquelle ils vivent soit davantage réglementée en permanence. Qu'un certain nombre de contraintes s'imposent aux entrepreneurs. Ce sera la journée de 8 heures, c'est la fin du travail des enfants, c'est l'institution de salaire minimum, c'est l'institution d'une sécurité sociale. Et quand Hayek arrive et réfléchit à ce qui est devenu la société, il se dit « le monde libéral du départ, le monde d'Adam Smith, n'existe plus, et il n'existe plus parce que l'État est trop présent ». L'État est trop présent, en partie parce que, après tout, l'État complètement déréglementé, ça a débouché sur la crise de 29. Et qu'au moment de la crise de 29, il y a des gens comme Mendès France, par exemple, qui disent, ben voilà, maintenant c'est fini, il faut créer l'État fort contre l'argent fort.
Mais est-ce que l'État est vraiment le rempart à la folie du capitalisme? Est-ce que l'État est susceptible de canaliser? Et est-ce que l'État a canalisé la phrase de Mendès France, un État fort contre l'argent fort, est-ce que ça marche? Parce que ce que vous dites aussi, c'est que souvent, l'État a aidé.
Oui, l'État a effectivement aidé le capitalisme à se développer. Et en quelque sorte, le contrôle, la régulation, la réglementation par l'État de l'activité économique a parfois protégé le capitalisme de ses tendances autodestructrices. C'est ce qu'on avait vu à l'issue des années 20. Le capitalisme sans contrôle, sans réglementation, ça avait débouché sur la crise de 29. Et lorsqu'il y avait eu les politiques volontaristes du New Deal, elles avaient mécontenté la plupart des petits patrons américains, mais elles avaient sauvé le capitalisme. Le capitalisme a besoin d'être contrôlé, sinon il se livre à ses tendances autodestructrices. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de voir en ce moment, où pour le sauver à nouveau, pour qu'il n'y ait pas une crise aussi cataclysmique que ce qu'on a connu dans les années 20 ou dans les années 30, il va falloir imaginer de nouvelles réglementations, de nouvelles régulations. Mais pendant la période au cours de laquelle s'exprime Hayek, l'État intervient davantage. L'État se mêle beaucoup de l'activité économique. Il faut se souvenir, par exemple, que quelque chose comme le plan Marshall, qui est un plan d'aide des États-Unis à l'Europe occidentale et à l'Europe et en France aussi, à la France, eh bien en France, le plan Marshall va verser près de 40% de ses fonds à des entreprises publiques nationalisées. À l'époque, cette idée que l'intervention de l'État permet de stabiliser le capitalisme est acceptée. Et elle s'accompagne d'un certain nombre d'avantages pour les catégories sociales les plus défavorisées. Parce que cette intervention de l'État n'est pas uniquement faite pour nuire aux capitalistes. Au contraire, parfois, elle est faite pour les protéger et elle est aussi le produit d'une action syndicale, d'une action ouvrière qui oblige le capitalisme à se contrôler. En quelque sorte, à ne pas aller jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'il a eu la tentation d'aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas eu de résistance, il y a eu une situation très très difficile.
At this point, I'm supposed to promise I'll share the secrets of my success as a professional stock market investor.
Je suis censé partager avec vous les secrets de ma réussite en tant qu'investisseur boursier professionnel.
But rule number one is stop listening to professionals.
Mais la première règle, c'est de ne pas écouter les professionnels du marché.
20 years in this business has convinced me that any normal person using the customary 3% of his or her brain power.
Après 20 ans dans le métier, je pense que chacun, en utilisant que 3% de son cerveau,
can pick stocks as well, if not better,
peut faire aussi bien, sinon mieux,
than the average Wall Street expert.
Que l'expert moyen de Wall Street.
Plus en plus de moins en moins considérés comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bétail, tout trop beau, copier. là où la bête,
bébé,
est plus facile à traire. Oh si, peut-être un gnocchi était un corps de mer.
Méfie-toi du bord des eaux troubles,
où l'on peut voir flotter les narines, l'œil opaque, des crocodiles à quatre pattes, qui te guettent pour te happer.
Et des croquettes crues brillantes de nylon, le mâchoire de crocodile.
Bien, crocodile. Pitié n'est que douce sous les coups du crocodile.
Crocodile.
On est de plus en plus de moins en moins con. On se remet par les discours pleins d'astuces
et de consensus. Des engraisseurs de porc qui nous sucent le cantex.
On est de plus en plus enchaîné au rouage. La machine qui s'emballe nous entraîne en spirale vers les bas, vers les cas.
Oh,
oh si, grâce à l'antilope,
charmant facochère,
il faut toi
des violents coups de queue du caïman à lunettes,
le plus racaille,
le plus retard,
le crocodile.
Ce que vous dites surtout, c'est l'idée d'une utopie libérale. Quand on dit le mot utopie, même si c'est faux, on pense à des utopies socialistes, de gauche, marxistes, etc. Non, là, vous dites le libéralisme aussi est une utopie.
Absolument. C'est le retour, en quelque sorte, au XIXe siècle. C'est le retour à la situation qui existait avant que l'État intervienne, impose l'impôt par exemple sur le revenu, l'impôt sur les grandes fortunes, les législations sociales. Et c'est cette idée que toutes ces réglementations qui ont été créées empêchent à l'heure actuelle le capitalisme de se développer. Et c'est une pensée qui est très très puissante dans l'esprit de gens comme Hayek, mais aussi dans l'esprit de gens comme Reagan, qui ont cette espèce de nostalgie de la frontière, de l'ère de la frontière, où l'entrepreneur faisait ce qu'il voulait, créait son entreprise très vite, n'avait pas à rendre compte à qui que ce soit de ce qu'il faisait. Et lorsque la crise économique intervient dans les sociétés occidentales, dans les années 70, vous avez beaucoup de gens comme Reagan, comme Thatcher, qui disent « c'est parce que l'État est trop intervenu ». C'est parce que l'État est trop intervenu que cette force considérable, à la fois créatrice et destructrice, que représente le capitalisme, est devenu tellement bridé qu'on arrive à une situation de paralysie. Donc il faut la libérer à nouveau. Et pour la libérer à nouveau, il faut remettre en cause tout ce qui a été le pacte social, les protections sociales et l'intervention de l'État.
Est-ce que ça veut dire que sans cette crise, ça n'aurait pas marché? Est-ce qu'il fallait cette crise pour que ça marche?
Ah, il fallait cette crise pour que, en quelque sorte, il y ait une perception de la nécessité de faire autre chose. Lorsque nous sommes dans la période des 30 glorieuses, entre 45 et 75, grosso modo, et que Hayek s'agite, parce que Hayek, il est déjà là, Friedman, il est déjà là, ils se réunissent dès 1947, avec une série de gens qu'on ne connaît pas à l'époque, mais qui vont devenir prix Nobel à partir des années 80. Lorsqu'ils disent, il faut revenir à davantage de marché, il faut arrêter la réglementation de l'État, personne ne les écoute. Parce que la situation d'ensemble, la situation économique a l'air prospère, parce que les écarts de fortune semblent se réduire, parce qu'on est dans une situation qui est proche du plein emploi. Donc il n'y a aucune raison qu'on les écoute. Et puis quand la crise intervient, on est un peu comme dans la situation du spectateur dans un théâtre à qui on annonce un incendie et quelqu'un crie « c'est par ici la sortie ». Et ceux qui crient « c'est par ici la sortie » au moment où l'incendie entre guillemets survient, ce sont les néolibéraux. Alors vous allez là où il vous indique. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la sortie. Peut-être que vous allez périr en les suivant. Mais dans ce genre de situation de panique, dans ce genre de situation d'inquiétude, vous vous rendez vers la destination qu'on vous indique. Et cette destination, elle a été mûrement préparée par les libéraux à partir de la fin des années 40, des 47
La situation,
après.
La crise, non. La
réponse à la crise.
La réponse à la crise.
Les étapes qui vont permettre de passer d'une société réglementée, d'une économie mixte, à une société de marché. Tout ça, ça a été très, très mûrement pensé par les néolibéraux dès les années 40. Je cite par exemple dans le livre des dispositions proposées par Hayek dès 1960 dans ce qu'il appelle la Constitution de la liberté. Et qu'est-ce qu'il demande ? En 1960, il dit il faut déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, supprimer les programmes de subvention au logement et le contrôle des loyers, abolir le contrôle des prix et de la production dans l'agriculture, réduire le pouvoir syndical. Dès les années 60, il est évident que quand il propose ce programme dans les années 60, il se condamne à ne pas être écouté. Les gens n'ont pas du tout envie de se lancer dans cette espèce de bond en avant ou en arrière selon la position qu'on occupe. Ils n'ont pas du tout envie de se lancer dans cette espèce de saut dans l'inconnu à partir du moment où leur situation semble s'améliorer, où ils connaissent une certaine prospérité. De 45 à 73, vous allez avoir une vague de prospérité sans précédent dans les pays occidentaux et relativement bien répartie, beaucoup mieux répartie que maintenant. À partir de 1973, aux États-Unis et pendant 25 ans, le revenu de la plupart des Américains stagne ou recule. Mmh. C'est à ce moment-là que vous êtes disposé à écouter ceux qui vous disent « voilà pourquoi ça va pas, voilà ce qu'il faudrait faire ».
Mais faire stagner les revenus, c'est intentionnel.
Non, je ne dirais pas que c'est intentionnel, mais la manière dont on répond à cette stagnation des revenus, elle est le produit d'une réflexion politique. Parce qu'encore une fois, une crise, elle-même, ne débouche jamais sur une solution donnée et une seule, ou pas forcément. Souvenons-nous de la crise des années 30. La crise des années 30, elle débouche en France sur le Front populaire, en Allemagne sur le fascisme, aux États-Unis sur le New Deal, et au Royaume-Uni, où la crise est au moins aussi importante au plan économique, il n'y a pas de grande transformation politique. Donc il n'y a aucun automatisme entre la crise économique et l'interprétation qu'on lui donnera. Mmh. Il se trouve qu'à partir des années 70, des années 80, l'interprétation de chaque crise, ce sera « ça ne va pas parce qu'il n'y a pas assez de marché ». Et lors même où des crises surviendront parce qu'il y a trop de marché, ceux qui contrôlent les mécanismes d'interprétation, ceux qui contrôlent l'appareil d'État diront non, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, mmh. C'est parce qu'on est uniquement au milieu du gué, il faut aller jusqu'au bout.
In this section called the long-term
Une vision
view,
à long terme. Peter Lynch vous explique ici comment construire un portefeuille d'actions qui maximise les profits et minimise les risques. Il vous apprend quand acheter et vendre, ou que faire quand le marché s'effondre. Il analyse le marché boursier aujourd'hui et vous explique tout ce qui a changé.
Mais alors vous parlez d'un léninisme de marché. Léninisme de marché est souvent... Et vous n'êtes pas le seul, vous faites des comparaisons entre cette avant-garde néolibérale et les techniques, les stratégies des bolcheviks ou des guérillas marxistes ou d'extrême-gauche.
Oui, absolument, parce qu'il y a eu une volonté de la part des néolibéraux de créer les idées qui leur seraient favorables, qui seraient les plus favorables à leur projet. De favoriser dans les universités, de favoriser dans les médias l'expression d'idées qui seraient favorables à leur projet. Et tout ça n'est pas du tout né du hasard. Vous avez un ministre des Finances américain qui dit dès les années 70, je le cite, « Le monde des affaires doit cesser de subventionner sans réfléchir les collèges et les universités dont les départements d'économie, de sciences politiques et d'histoire sont hostiles au capitalisme. Il faut également cesser d'investir dans les médias qui servent de relais aux opinions anticapitalistes et reporter ces investissements vers des médias favorables à la libre entreprise. »
On est en quelle année, là ?
On est en 1973 ou en 1974. Donc ce sont des gens qui ne laissent rien au hasard. Ils ne cessent de présenter le marché comme un phénomène naturel auquel il faudrait se soumettre. Souvenons-nous de la phrase de Chirac expliquant les licenciements à Villevorde en disant « Les licenciements, c'est la vie. Moi, j'ai connu des maréchaux Ferrand, il n'y en a plus. C'est la vie. Ce n'est pas pour autant que le monde a régressé. » Donc, il présente ça comme une situation presque naturelle, alors que c'est le produit d'une démarche très volontariste qui est entreprise à partir des années 40 et qui se déploie avec beaucoup de succès à partir des années 70. Deux ans avant l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, vous avez un des leaders de la droite américaine qui dit même reprenant donc cette métaphore du volontarisme léniniste, du bolchevisme de marché, qui dit, je le cite, « Nous devons suivre l'exemple des communistes. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays où les principales institutions, les médias, les organisations religieuses et les entreprises leur sont hostiles, ils installent une structure de guérilla qui leur permet de faire passer leur information. Nous sommes ici dans la même situation. Les principaux instruments institutionnels sont contre nous. CBS, l'université Harvard, le New York Times, PepsiCola et le Congrès. » Il y a une vision qui est presque paranoïaque.
PepsiCola est une institution.
Non seulement c'est une institution, mais c'est une institution hostile au capitalisme. Oui. Et c'est en quelque sorte, c'est presque le charme et ce qu'il y a d'effrayant chez ces gens-là, c'est que ils en veulent toujours davantage. Ils se présentent toujours dans la situation d'assiégés. Si vous voulez, ils contrôlent tout à l'heure actuelle, aux États-Unis et dans bon nombre de pays.
Mais Serge, la différence quand même, c'est que là, on se réfère à des époques où on avait deux hégémonies. On avait le monde soviétique et le monde libre. C'est le monde libre qui est en train de parler. Et dans ce que vous venez de lire, on sent la religion de l'anticommunisme.
Il y a la religion de l'anticommunisme qui a pour logique, pour corollaire tout à fait logique, cette idée que le capitalisme est en train de se rapprocher du socialisme et du communisme en s'imposant des contraintes croissantes. Et c'est toute la thématique de Hayek et de la route de la servitude, c'est on va vers la convergence des systèmes parce que ce qu'il y avait de capitaliste dans le capitalisme est en train de disparaître et que ce système capitaliste s'impose des contraintes qui sont de plus en plus proches de celles qui existent déjà dans les pays communistes. Et cette convergence, nous n'en voulons pas, dit Hayek, disent Reagan, disent Thatcher, et parce que nous n'en voulons pas, il faut que nous retournions le capitalisme à sa vérité d'origine avant que les réglementations n'interviennent. Mais il faut rappeler que ces réglementations sont elles-mêmes le produit de luttes sociales. Elles n'ont jamais été acceptées par le capitalisme comme ça, par un effet de sa générosité ou de sa charité. Lorsque les programmes sociaux ont été lancés, y compris par Bismarck en Allemagne, c'était pour couper l'herbe sous le pied des socialistes. En se disant, on ne peut pas accepter un appauvrissement croissant de la population, parce que si ça intervient, on risque une révolution sociale et une révolution politique. À partir du moment où la crainte de cette révolution sociale et de cette révolution politique disparaît, les capitalistes estiment qu'ils n'ont plus de raison de faire les concessions qu'ils acceptaient dans les années 50 et dans les années 60. Et il est évident qu'à partir du moment où l'Union soviétique elle-même disparaît, ce qu'on appelait le bloc socialiste, il y a ce sentiment qu'il n'y a plus qu'un mode de gestion possible, qui est le mode capitaliste, et que donc la disparition de l'Union soviétique valide le désir des ultralibéraux d'aller jusqu'au bout.
Et là, ça les propulse là où ils sont aujourd'hui.
Ça les propulse là où ils sont aujourd'hui, même si ils arrivent au pouvoir bien avant la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique. Parce que ça, c'est une reconstitution, en quelque sorte, qu'on fait a posteriori, où on dit, il y a la chute du mur de Berlin, il y a le triomphe des libéraux. Voilà. Mais ils triomphent bien avant la chute du mur de Berlin. Ils triomphent au Chili.
73.
La première politique ultralibérale qui est menée dans le monde, c'est la politique du général Pinochet à partir de 1973, qui fait appel
avec Friedman,
qui servira de consultant à Pinochet et qui fait appel aux étudiants de Friedman à l'université de Chicago. Et il leur dit, l'utopie libérale, vous voulez la construire quelque part, faites-le chez nous. Il n'y aura aucune résistance, les syndicats ne vous gêneront pas, vous pourrez poursuivre les réformes, entre guillemets, aussi loin que vous le souhaitez. Et c'est celle-là la première politique néolibérale. Ça, on a tendance à ne pas le rappeler parce que c'est moins valorisant que d'autres exemples. Et après, il y aura Thatcher en 79 et après, il y aura Reagan à partir de 81. Et donc, le mur de Berlin, c'est 8 ans plus tard qu'il tombe. La chute de l'Union soviétique, c'est 10 ans plus tard. Mais quand ces phénomènes interviennent, on peut dire que le libéralisme a déjà triomphé dans la plupart des pays occidentaux, y compris en France sous un gouvernement de gauche à partir de 83-84. Donc la chute du mur de Berlin ne va que valider après coup les réformes libérales qui ont été entreprises dans les années 80, en permettant de dire aux opposants de gauche à ces réformes, vous voyez bien que votre modèle de développement s'est écroulé. Même si la plupart des opposants de gauche au libéralisme dans les pays occidentaux ne se revendiquaient pas du tout du modèle de développement soviétique depuis très longtemps.
This is the end of side 1A.
Vous voici arrivé à la fin de la phase A. Phase B, Peter Lynch explique comment analyser les données fondamentales d'une société pour que vous aussi, vous puissiez choisir les bonnes.
Mais entre 1973, donc cette première application, là on est sorti du laboratoire, on est sorti des think tanks, on est sorti des boîtes à idées où on se bricole des trucs, on essaye. Là on essaye, on fait un essai grandeur au Chili. Entre
entre 73 et 83 en France, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au cours de ces 10 ans pour que ce libéralisme gagne à ce point partout ?
À vrai dire, entre 73 et 83, en France, la situation est contrastée. Le libéralisme n'a pas encore gagné. Il y a des avances et il y a des reculs. 72, c'est le programme commun de la gauche, qui est évidemment un programme fondamentalement antilibéral, un programme de nationalisation massive. Et à partir de 72, il y a une montée de la gauche dans les élections, qui fait que François Mitterrand est presque élu en 1974, qu'il est élu en 81, et qui met au départ en œuvre un programme qui n'a rien à voir avec les préceptes néolibéraux. Et c'est à partir du moment où il fait machine arrière et où il décide d'adopter les techniques qui ont déjà été mises en œuvre au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans une certaine manière, que le triomphe des libéraux est complet. Mais il n'intervient pas en 73. Je rappelle qu'en 1971, un président républicain aux États-Unis, comme Richard Nixon, déclare « Après tout, nous sommes tous des keynésiens maintenant
oui. ».
Donc dans les années 70, le consensus keynésien commence à être ébranlé, mais il a encore quelques années à vivre. C'est à partir de 79-80 que, en quelque sorte, le basculement intervient. Et quand il y a une tentative de faire quelque chose de complètement contraire en France en 81 et que la perception dominante sera que cette expérience échoue, alors là, il n'y aura plus de résistance à la généralisation de ces politiques néolibérales partout.
Alors, ce basculement vers le libéralisme, ce triomphe du néolibéralisme, il ne va pas sans ce que vous appelez l'habillage savant de la revanche sociale. Qu'est-ce que c'est oui. que cet habillage savant de la revanche sociale ?
Ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos des think tanks, des fondations qui développent les projets des néolibéraux. Les think tanks, ces fondations, ont un avantage considérable sur les autres
institutions. Oui, on dit instituts. En anglais, bon, là, on a l'équivalent en France avec justement les fondations.
Les fondations.
Alors, la Fondation Saint-Simon, par exemple.
Elles ont un avantage particulier par rapport aux autres instituts de recherche, c'est que les gens qui y travaillent ont déjà trouvé. Ou plus précisément, ils savent très précisément, très réellement, ce qu'ils doivent trouver. Et ce qu'ils doivent trouver, c'est la mise en cause de tous les programmes de redistribution sociale et l'exaltation du rôle de l'entrepreneur. Donc vous avez des jeunes chercheurs, qui sont en général marqués à droite, et à qui des grosses entreprises vont dire « on est prêt à vous payer vos études pendant des années pour que vous expliquiez que la redistribution, ça ne marche pas, pour que vous expliquiez que l'entrepreneur, c'est l'idéal social à poursuivre. »
La pédagogie.
Bon, oui, alors quand vous avez déjà trouvé, évidemment, la recherche est plus facile à conduire. Et ces jeunes universitaires, souvent conservateurs, vont donner un habillage savant aux préférences des grandes entreprises. Les grandes entreprises ne peuvent pas dire à l'opinion publique, si vous voulez, l'essentiel c'est que les riches soient plus riches et que les pauvres soient plus pauvres. Ce n'est pas un programme qui passerait électoralement. Et à la différence du Chili, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, on est encore dans un cadre qui se veut virtuellement démocratique. Donc on est obligé de faire passer ces idées autrement. Eh bien on va les faire passer grâce à ces chercheurs, qui vont être très largement relayés par les médias, et qui diront « nous ce qu'on veut, c'est pas du tout que les plus riches soient plus riches et que les plus pauvres soient plus pauvres, mais voyez, on a une situation de chômage, et la situation de chômage, il faut qu'on en sorte, et pour qu'on en sorte, il faut baisser le coût du travail. » Et c'est ça qui aidera les pauvres à sortir de la misère. Donc ils vont donner un habillage savant aux préférences économiques et aux préférences financières des milieux dirigeants, qui après vont réussir à faire avancer leur politique en disant « c'est dans l'intérêt de tous qu'on poursuit ces politiques ». On enrichit les riches parce que si on enrichit les riches, après ils vont créer des entreprises et ils vont offrir des emplois aux pauvres. C'est la grande théorie de Reagan à partir des années 81-82. Mais ça ne marche que si vous avez cette espèce d'habillage savant. C'est un programme, c'est ça d'ailleurs la caractéristique à mon avis du programme libéral, c'est qu'il ne peut pas réussir politiquement sous ses propres couleurs. Il faut qu'il avance masqué en permanence. La privatisation des grandes entreprises au Royaume-Uni, elle était opposée pour chacune des grandes entreprises. Elle a quand même eu lieu. En Nouvelle-Zélande, quand un gouvernement socialiste a envisagé de privatiser les forêts domaniales et de les vendre à des conglomérats japonais ou américains, etc., on a fait un sondage pour savoir ce qu'en pensaient les Néo-Zélandais. Il y avait 4% des Néo-Zélandais qui étaient favorables, 79% qui étaient opposés. Et pourtant, elle a eu lieu. Parce qu'à chaque fois, on a présenté ces mesures-là comme le produit d'une nécessité. Donc on n'est pas persuadé que c'est bon, on vous dira, mais il faut le faire, parce qu'on est obligé de le faire.
Pourquoi, Serge Halimi, pourquoi si peu d'opposition ?
Alors là, c'est effectivement une grande question. Quel est le travail que la gauche a fait, ou plus précisément, n'a pas fait pendant cette période ? Et il me semble que ce qui s'est passé...
La gauche, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a toute une gauche libérale
oui, justement, mais
qui s'est convertie.
Oui, mais pourquoi s'est-elle convertie? Pourquoi s'est-elle convertie et pourquoi est-elle devenue libérale? Parce que quand on parle du Parti démocrate aux États-Unis, effectivement, maintenant, c'est un parti très largement libéral. Le Parti socialiste en France aussi, dans une large mesure, est assez libéral. Mais ça n'était pas le cas au départ. Souvenons-nous des proclamations de François Mitterrand au lendemain du congrès d'Épinay. Qu'a-t-on fait pour les salariés? Rien. Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Rien. Qu'a-t-on fait pour les maîtres des multinationales? Tout. Bon, c'était un discours qui paraîtrait presque caricatural maintenant, qui était le discours tenu par le principal responsable de l'opposition, qui allait obtenir près de 50% des voix en 1974 et une majorité des suffrages en 1980. La même chose aux États-Unis où le Parti démocrate était associé aux politiques du New Deal, aux politiques très interventionnistes. Donc que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé, à mon avis, qu'à partir de 1973, on l'a vu aux États-Unis pendant 25 ans, le revenu de la majorité de la population stagne ou baisse. Et qu'à ce moment-là, l'explication de cette stagnation sera davantage offerte par les républicains, à travers leur propositions libérales, mais aussi à travers leur utilisation systématique des ressorts poujadistes, en termes d'insécurité, d'intégration raciale, d'immigration, de défense des valeurs traditionnelles, de défense de la religion. Ils arriveront à agréger un électorat populaire qui a le sentiment que les politiques démocrates ne le servent plus dès lors que son niveau de vie stagne. Et les républicains et une partie de la droite en Europe et une partie de l'extrême droite en France accompliront ce tour de force qui consistera à dire « Vous êtes mécontents de votre situation ? Eh bien, c'est parce qu'il y a trop d'insécurité, c'est parce qu'il y a trop d'immigration, c'est parce qu'il y a trop d'intégration raciale, etc. » Et dans des catégories populaires très défavorisées, on sera à l'écoute de ce discours. Mais qu'est-ce qu'on obtiendra en échange de son soutien à la droite? Rien. Parce qu'en matière d'immigration, en matière d'intégration, en matière de défense des valeurs traditionnelles, les républicains ou la droite n'offriront rien. Ce qu'ils offriront en revanche, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est l'installation des supermarchés partout, c'est le durcissement de politiques de plus en plus inégalitaires. Et il me semble qu'il faut penser à ça parce qu'on a souvent à l'esprit les gens de gauche qui sont dupés parce qu'ils votent pour un programme de gauche et qu'ils voient la gauche appliquer des politiques de droite. Il faut voir que l'électorat populaire de droite, lui aussi, a été dupé. On lui a vendu, en quelque sorte, la défense des valeurs traditionnelles, la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'insécurité. Et ce qu'il a eu, c'est la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, la baisse de l'impôt sur les revenus et l'installation des hypermarchés partout. Souvenons-nous que, par exemple, aux États-Unis, dans les années 60, le taux marginal de l'impôt sur le revenu atteint 91%. La tranche supérieure de l'impôt sur les revenus atteint 91%. Et nous ne sommes pas dans un pays socialiste. Nous sommes aux États-Unis, dans un pays capitaliste développé. Quand Reagan arrive au pouvoir en 1980, la tranche supérieure de l'impôt sur les revenus est encore de 70%. Mais quand il quitte le pouvoir en 1989, elle n'est plus que de 28%. En d'autres termes, ce qui a le mieux marché dans les politiques néolibérales, c'est la redistribution des revenus des plus défavorisés vers les plus favorisés, alors même qu'ils ont réussi à agglomérer à leur coalition de possédants une partie croissante de l'électorat populaire en leur vendant, en quelque sorte, cette idée que la crise était le produit de valeurs traditionnelles qui étaient mises en cause, de la religion qui était attaquée, de l'immigration qui était trop nombreuse, de l'insécurité qui se développait.
Chapter 1. The Making of a Stock Picker. Chapter 2. The Wall Street Oxymoron.
Takes a loan from a Midwestern SNL. He puts the money in a quick drying ink well. Takes a loss, bends cross, walks to the corner store, pulls a knife, calls his wife, can't take it anymore. We got Joe, hop on and go. Take away the fire and where does the water flow?
Chapter 3. Is this gambling or what?
Jerry's in the attic, messing with the static. Junior's on the telephone, nothing problematic. Julie's selling D-bonds, her bill is turning over. John is building walls, manipulating a takeover. Best, don't share the treasure chest. If you cheat, get away, lead them down and out. Look out, Joe, how far?
Chapter 4, Passing the Mirror Test. This is the end of Side 1A. On Side 1B, Peter Lynch explains how to research the fundamentals of a company so that you too can pick out the winners.
Vous revenez souvent sur une formule et sur une idée qui est la tendance autodestructrice du capitalisme. Est-ce que il suffirait pas au fond de le laisser faire pour qu'il se détruise lui-même?
Oui, mais à quel prix?
Il y a ce calcul-là.
Oui, mais à quel prix et pour qui? C'est le genre de calcul qu'on peut faire quand on est dans la comète, mais quand on vit dans le monde social, on sait que les principales victimes, ça ne sera pas les artisans de la révolution capitaliste, ni ceux qui en ont d'abord profité. Mais ce sera une nouvelle fois ceux qui en ont été les victimes qui subiront de plein fouet cette transformation ou cette crise. On l'a bien vu tout de même dans les années, à la fin des années 90, avec les crises qui ont éclaté en Russie, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine.
98, oui.
En 98, on l'a vu à de nombreuses reprises, les principales victimes, ce ne sont jamais les milieux les plus favorisés qui ont les moyens de se protéger. Donc on ne peut pas appeler de ses voeux cette crise-là en se disant, voilà, elle provoquera une explosion quelconque. C'est une vision qui est un peu dangereuse. D'autant qu'il faut constater que le capitalisme, là, c'est tellement renforcé ces dernières années que ces crises, y compris des crises majeures, ne provoquent pas de transformation politique sensible. On évoquait les années 30. Lorsqu'il y a eu la crise des années 30, il y a eu des évolutions politiques très différentes selon les pays. Pensons à ce qui s'est passé en 1987 avec le krach des valeurs boursières. Il n'y a pas eu de conséquences politiques. Il ne s'est pour ainsi dire rien produit après. 97-98, une crise économique majeure dans trois zones géographiques différentes à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Quelques années plus tard, les choses se remettent en place. 2001, la bulle Internet. Qu'est-ce qui se passe? Quelques années plus tard, les choses se remettent en place. En d'autres termes, le capitalisme arrive de plus en plus à digérer ces crises parce qu'il n'y a pas de vision d'une société alternative. Et il n'y a pas de vision d'une société alternative, en partie parce que les grandes formations de gauche défendent, grosso modo, les mêmes intérêts. On le voit dans la plupart des pays occidentaux, la gauche s'embourgeoise, s'éloigne des catégories populaires. Et vous avez la célèbre phrase de Dominique Strauss-Kahn, qui expliquait dans un livre qu'il a écrit « Du groupe le plus défavorisé, on ne peut malheureusement pas toujours attendre une participation sereine à une démocratie parlementaire, non pas qu'il se désintéresse de l'histoire, mais ses irruptions s'y manifestent parfois dans la violence. » Donc vous avez toute une gauche qui en quelque sorte se méfie du peuple. Qui se méfie du peuple parce qu'elle représente elle aussi de plus en plus les catégories moyennes et les catégories supérieures. On voit bien que la configuration sociale de ce qui était la gauche s'est complètement transformée. Qu'un certain nombre de responsables socialistes en France, mais de responsables démocrates aux États-Unis, sont complètement intégrés au monde de l'entreprise. Vous avez donc cette réconciliation, entre guillemets, entre la gauche et l'entreprise, qui fait que, grosso modo, ils défendent les mêmes intérêts sociaux que ceux de la droite. Et c'est donc toute une catégorie populaire, qui est la catégorie qui vit les existences les plus difficiles, qui a le sentiment qu'elle n'est pas représentée. Qu'elle ne pas représentée, que la politique ne la concerne plus, et qui décide d'ailleurs assez largement de ne plus s'intéresser à la politique et de ne plus voter.
À qui ça profite et qui perd?
Bon, je crois que là c'est une question assez facile que vous me posez. On a les chiffres en France entre 83 et 98, par exemple. On sait qu'il y a eu un transfert de la valeur ajoutée d'environ 8-9% du produit national brut des revenus du travail vers les revenus du capital. C'est l'équivalent de plus de 100 milliards d'euros par an qui autrefois auraient été versés aux revenus du travail et qui maintenant sont versés aux revenus du capital. Et tout favorise cette évolution, y compris le discours actuel sur l'attractivité. L'attractivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les riches, il faut les taxer moins, sinon ils vont aller à l'étranger créer des entreprises. Mais l'attractivité, ça veut dire quoi pour les pauvres? Que leurs salaires sont moindres, sinon leurs emplois vont être délocalisés à l'étranger. Donc pour les uns, il faut donner davantage, ce sont déjà ceux qui possèdent à peu près tout. Et pour les autres, qui ont des existences de plus en plus difficiles, il faut rogner sur les coûts et sur les avantages sociaux en invoquant la délocalisation. Vous avez une volonté qui a construit le monde dans lequel nous vivons, et c'est évidemment une volonté qui nous permettra, le cas échéant, d'en sortir. Et il faut voir peut-être que le capitalisme, le marché, ne constitue pas une utopie. Il se présente comme une utopie, mais pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas une utopie. D'être constamment appelé à arbitrer entre deux compagnies de téléphone, entre deux compagnies d'électricité, de voir nos conversations individuelles, oui, y compris avec des amis, de plus en plus absorbés par ça, être obligé de choisir, être démarché en permanence, ça n'est pas la vision d'avenir à laquelle nous aspirons. Et c'est pour ça que ce système-là bénéficie d'appuis fragiles. Il bénéficie d'autant plus d'appuis fragiles que les couches sociales qui ont jusqu'à présent bénéficier de cette évolution sont maintenant menacés par la logique du capitalisme. Les délocalisations, ça n'est plus seulement les ouvriers. Ça n'est plus seulement l'ouvrière d'Argentan qui va perdre son emploi à Moulinex parce que l'emploi va être délocalisé ailleurs. Ça va être de plus en plus des emplois de techniciens, des emplois de comptables, des emplois d'avocats. Et alors là, la question va se poser, jusqu'où ? Est-ce qu'on peut accepter que cette logique engouffre les catégories sociales qui sont les plus mobilisés politiquement parce que les autres ont cessé de s'intéresser à la politique. Et ils ont les moyens de stopper ce genre d'évolution. On le voit aussi à travers l'accession à la propriété, même pour les classes moyennes maintenant, ça devient impossible. Donc pendant une première période, si vous voulez, la logique du capitalisme a complètement broyé une partie de la classe ouvrière, et les employés, les cadres supérieurs, les professions libérales ont laissé faire parce qu'ils y voyaient en quelque sorte leur intérêt, mais maintenant eux-mêmes sont menacés. Et si eux-mêmes sont menacés par un système qui n'a pas su secréter un projet, une utopie très exaltante, mais il y a un moment où le problème intervient et où la possibilité de revenir sur ces réformes aussi se pose. Parce que jusqu'à présent, la grande difficulté, c'est que chacune de ces réformes a conduit à la réforme suivante, mais que les partis de gauche n'ont jamais proposé de faire machine arrière. Ils n'ont jamais proposé de renationaliser ce qui avait été privatisé. Ils n'ont jamais proposé ce genre de réforme. Ils se sont dit, si nous arrivons au pouvoir, cette marche libérale avancera moins vite. Avec eux, c'est le TGV, et avec nous, ce sera l'Express. Mais ça n'est pas une démarche qui est politiquement très mobilisatrice. Et il faut se rappeler que la démolition de la société à laquelle on est en train d'assister était déjà intervenue au XIXe siècle, et qu'il y avait eu un mouvement de révolte qui avait provoqué le développement de ces régulations, de ces lois sociales, au moment où ce processus de démolition intervenait. Donc il ne faut pas penser que la situation est forcément compromise de manière irréversible.
Serge Halimi, il faut quand même attendre la toute fin de votre bouquin pour lire « La partie n'est pas perdue ». Je souligne les toutes dernières lignes pour que vous nous disiez « Car des victoires, il y en eut ».
Oui, mais oui, d'une part, parce que les victoires, j'en ai déjà.
On fait teinter les bijoux de famille pour finir.
Oui, non, mais les victoires, j'en ai déjà parlé ailleurs. Comment elles avaient été construites quand la gauche essayait en France et dans d'autres pays. Et puis le propos de mon livre, c'était de nous expliquer le type de situation dans lequel on se trouve et à quel point il a été construit par la volonté des libéraux qui ont bénéficié d'un certain nombre d'avantages qui ne sont pas ouverts à tous. Mais je rappelle aussi à la conclusion de mon livre que le projet d'Hayek, au moment où il le développe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est un projet qui est complètement utopique, utopiste, beaucoup plus utopique ou utopiste que ce que nous envisageons nous-mêmes comme solution. En 1949, au moment où triomphe la pensée unique keynésienne, parce que on parle de pensée unique et on pense aux ultralibéraux, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pensée unique, c'est la social-démocratie, c'est l'économie mixte, c'est Keynes. C'est ça que les libéraux qualifient de pensée unique. Eux-mêmes emploient l'expression de pensée unique à cette époque. Eh bien, la pensée unique, au moment où elle triomphe, Hayek écrit en 49, « Nous devons être en mesure de proposer un nouveau programme libéral qui fasse appel à l'imagination. Nous devons à nouveau faire de la construction d'une société libre une aventure intellectuelle, un acte de courage. Nous avons besoin de leaders intellectuels prêts à résister aux séductions du pouvoir et de la popularité et qui soient prêts à travailler pour un idéal, quand bien même ses chances de réalisation seraient maigres. Ils doivent avoir des principes chevillés au corps et se battre pour leur avènement, même s'ils semblent lointains. La principale leçon qu'un libéral conséquent doit tirer du succès des socialistes, Hayek s'exprime en 49 encore une fois, et que c'est leur courage d'être utopique qui leur a valu l'approbation des intellectuels ainsi que leur influence sur l'opinion publique. Ceux qui se sont souciés exclusivement de ce qui semblait réalisable dans un état donné de l'opinion se sont constamment rendus compte que tous leurs projets devenaient politiquement impossibles en raison de l'évolution d'une opinion publique qu'ils n'avaient rien fait pour guider. Et il concluait, si nous retrouvons cette foi dans le pouvoir des idées qui fut la force du libéralisme dans sa grande époque, la bataille n'est pas perdue. Voilà. Et vous voyez, il est un peu paradoxal qu'aujourd'hui, les mots d'Hayek soient à ce point susceptibles d'inspirer ses adversaires. Et il est extraordinaire d'entendre les libéraux ne cesser de nous invoquer la nécessité, on peut pas faire autrement, etc. Alors que leur projet n'est venu, en quelque sorte, au jour que parce qu'ils ont fait preuve d'une extraordinaire volonté, d'un extraordinaire acharnement. Ils ont accepté de vivre dans le désert, de traverser un désert qui a duré 20 ans, 25 ans. Et ils se sont dit, nous ne nous bougerons pas. Ce sont les valeurs avec lesquelles nous ne transigerons pas. Un jour viendra où nous pourrons les mettre en œuvre.
Quand on achète des actions, il faut croire en la nature humaine, croire dans le capitalisme, dans son pays, et dans la prospérité à venir. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a jamais ébranlé ma foi à moi.
C'était un entretien mené par Daniel Mermet, rediffusion du 2 juillet 2004. Merci à Serge Halimi, son ouvrage « Le grand bond en arrière, comment l'ordre libéral s'est imposé au monde » est paru chez Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique « Émissions », là-bas si j'y suis. À la technique, Patrick Henry et Aurélie Fortin. À la réalisation, Coy Nguyen et Raphaël Moutard, assistés de Charlotte Perry. Et la chef du répondeur est Agnès Lebot. Le numéro du répondeur de « Là-bas si j'y suis », 01 56 40 37 37.